Madame, mademoiselle, monsieur, le monde qui vient ne sera supportable qu'à condition d'être métamorphosé. Ce n'est pas moi qui dis cela, mais le professeur Boris Cyrulnik, sans doute l'un des spécialistes les plus écoutés au monde à propos du concept de résilience. Concept qui désigne une évolution ou un changement favorable à la suite de chocs ou d'expériences perturbantes. Voilà ce qui nous fait plonger brutalement dans le sens vertical du sujet. La matière, de même que les êtres vivants, l'être humain en particulier, subit chocs, crises et perturbations tout au long de son existence. Certaines de ces crises aboutissent à ce que je compare à une sortie de route, à une mutation régressive. J'entends par là que l'humanité ne progresse plus. Elle fait un retour en arrière plus ou moins brutal, plus ou moins profond. Elle ne vise plus les étoiles, mais se laisse glisser dans la fangeuse médiocrité qui la guette chaque fois qu'elle renonce à ce vouloir divine, rabaissant ses regards vers les fonds obscurs des tiroirs-caisses. Fort heureusement, d'autres crises, d'autres traumatismes, d'autres perturbations conduisent à une expansion, à une plus belle envolée des forces de la vie et de l'esprit. Dès lors, il peut de nouveau se tourner vers les lointains horizons. C'est ce que j'appelle une résilience salvatrice, c'est-à-dire une perturbation, un traumatisme, une crise, qui transforme en apportant énergie et création. Lorsque j'ai commencé à travailler sur mes artifact box, des boîtes translucides qui montrent des tableaux en lévitation, j'avais écrit plusieurs livres sur l'expansion de soi. Je me suis rendu compte très vite que ce qu'exprime la matière et la couleur seule est plus représentatif, plus fidèle, plus pur, en un mot plus vrai, que ce que l'homme exprime. Car nous portons tous un masque. Un masque qui dénature ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Un masque qui est aujourd'hui plus souvent obscur que lumineux, plus souvent sans âme qu'expressif, et plus souvent mort que vivant. En choquant la matière et la couleur pure, j'ai découvert la lumière et j'ai trouvé de la spiritualité. C'est ça une résilience salvatrice. Elle m'a sauvé du naufrage, c'est pourquoi vous pouvez voir concrètement cette résilience dans chacune des boîtes translucides qui contiennent mes travaux picturaux. Car il est souvent plus difficile de voir une résilience salvatrice chez celui que nous croisons dans nos vies, et plus difficile encore de la voir dans les sociétés de consommation actuelles qui sont plutôt dans une phase de transformation pour le moins incertaine, dont l'issue reste à créer. Sera-t-elle salvatrice ou destructrice? Sera-t-elle rédemptrice ou nous condamnera-t-elle à connaître une médiocrité stérile, toujours plus étouffante et sombre? Chacun porte en lui une part de la réponse et peut l'orienter dans le sens le plus pessimiste. Mais chacun porte aussi en lui une imagination dynamique et créatrice. Autrement dit, une capacité de résilience qui lui permettra de traverser avec assurance toute crise, dont les impacts et les traumatismes seront révélateurs et métamorphiques pour la suite de son existence. La crise l'aura alors changé, et tout porte à croire que son imagination en aura changé le cours. Car, telle la matière, l'homme n'est homme que lorsqu'il trace son destin et réalise sa résilience en affrontant les tempêtes de l'adversité. C'est à ce prix qu'une nouvelle et plus belle orientation peut prendre forme. Provisoirement, bien sûr, puisque, sans aucun doute, d'autres tempêtes l'attendent, dans l'avenir. Mais en agissant ainsi, il aura fait son métier d'homme, celui de laisser les événements l'imprégner pour leur permettre de donner à son existence un cours qui lui soit favorable, un cours qui l'élève dans le beau, le bien, le vrai, au lieu de le rabaisser dans l'obscurantisme. Voilà pourquoi je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous n'êtes certainement pas de ceux qui se laissent dépasser par la sinistrose ambiante des événements perturbants. Car ceux qui ont une sensibilité à l'art, je m'en rends compte depuis plus de 20 ans, ont, pas souvent, pas toujours, mais très souvent, une ouverture de conscience nettement plus lumineuse que la moyenne. Hélas et malheureusement, dans nos sociétés dominées par l'appel à une consommation forcenée de produits de plus en plus dérisoires, par l'appel à une croissance continue qui se heurte à ses limites, nous sommes de plus en plus contraints de subir les chocs qui viennent de l'extérieur, mais aussi ceux de nos êtres sans âme, puisque l'homme n'est plus trop fréquemment qu'humain de nom, et non plus par vertu humaine, par ambition de se montrer humain au-dessus de sa condition animale. Les chocs, hélas, ne sont pas alors salvateurs. Produits par des politiques économiques et sociales qui, à force de vouloir surprotéger les populations, et c'est particulièrement vrai en Occident, finissent inévitablement par provoquer leur appauvrissement. Vouloir le bien du plus grand nombre fait le malheur des individus, en empêchant la résilience naturelle de faire son œuvre. Appauvrissement moral et appauvrissement financier ne sont alors que des sonnettes d'alarme, qu'hélas peu d'entre nous entendent. Je dis que la crise que nous traversons n'est financière qu'en apparence. Son fond, son ultime moteur est spirituel. Entendez par là que nous souffrons par trop d'une cruelle absence de valeurs fondatrices. Les économistes, anglo-saxons en particulier, ont fini par nous convaincre que la richesse monétaire, c'est son produit et son commerce. Mais c'est faux. La richesse, c'est la culture. La richesse, c'est l'art. La richesse, c'est le pouvoir de résilience. Car la culture, l'art et ses collatéraux engendrent des produits à très forte plus-value. Le problème, ce ne sont pas des produits à consommation de masse. Les produits de masse ont, entre autres inconvénients, le fait qu'ils sont de plus en plus aptes à donner un vertige abyssal à tout être, un tant soit peu, conscient. Autrement dit, qui n'est pas lobotomisé par la nullité ambiante. Pour preuve, de nos jours, l'art devient un produit mercantile pour ceux qui occupent le haut de l'échelle. En bas, au dernier niveau, ce sont les smartphoneurs, les facebookers, les twisters et je ne sais quoi encore qui ont pris la relève des pensées de référence au point qu'ils impriment leur marque avec une syntaxe et une orthographe souvent douteuses. Mais vous ici, vous pouvez contribuer à changer. Changer ce monde aussi inquiétant que navrant. Oui, mais comment faire ? Comment réaliser cette gageur, réussir cet ouvrage ? Quels sont les actes qui contribuent à provoquer une résilience salvatrice pour celui et celle qui s'intéresse à l'art ? Permettez-moi de faire ma proposition. Le premier de ces actes, sans doute le plus important, c'est de tenter de pénétrer dans le travail de l'artiste, de tenter de le comprendre, de toucher à l'essence subtile de son approche, non pas sur le plan intellectuel et rationnel. Expliquer l'art par des mots est un vieux piège de phraseur que tout le monde connaît, mais sur le plan émotionnel et sensuel, devrais-je dire. Car c'est par la sensualité que passe le plus souvent la force de la spiritualité qui nous élève. La sensualité de l'esprit, celle du corps bien sûr, et celle du regard qui voit au-delà des limites de ce qu'il voit, au-delà des limites du rideau à jamais trompeur des apparences. Car il est bien connu que nous ne voyons pas les êtres et les choses telles qu'ils sont en réalité, mais bien telles que nous avons appris à les voir, à mal les voir, puisque nous sommes trop souvent que des porte-paroles, pour ne pas dire des perroquets, de l'inculture qui façonne nos sociétés. Pénétrer, en art comme dans la vie, l'espace immatériel et sensible qui ne se regarde pas mais qui se ressent, c'est la voie qui contribue à changer le monde qui nous entoure. Mais pénétrer cet espace doit devenir une habitude, une seconde nature. C'est à ce prix que le changement sera profond, que la résilience sera salvatrice. Voilà pourquoi mes clous sont des tuteurs de résilience, des fixateurs stimulants de la conscience expansive. Et je précise que les orifices qui les maintiennent en sont les points d'ancrage métaphysiques. Car dans le double vide du temps et de l'espace, il nous faut des repères métaphysiques pour vivre. Vivre réellement et consciemment, notre existence matérielle n'étant qu'un sous-produit de notre existence spirituelle. Le contenu de mes boîtes translucides a pour ambition de désengluer la frange consumétrice qui nous assaille de toutes parts, afin que nous puissions à nouveau tourner nos regards vers le firmament de l'espoir, en rétablissant nos liens avec l'ineffable. Nous voulons du concret. Nous en voulons si fort que nous ne voyons pas que le concret contient sa part d'émotionnel qui en fait partie, sans l'habiter pleinement. L'essentiel me paraît être de ne pas se cantonner à ce que nous saisissons au premier abord de manière concrète, mais de nous laisser imprégner par ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Comprendre l'essence de la matière, de la couleur pure, de la vie même, c'est se laisser parler, c'est se laisser porter, c'est d'aller au-delà de la pensée, c'est d'aller dans l'énergie, celle du rouge, du jaune, du vert et de toute autre couleur, celle du désir en réalité. Alors peut apparaître notre ami intérieur, toujours bienveillant, toujours lui-même en nous-mêmes. Il est le souffle de notre sensibilité, le véritable éclaireur de notre destinée. Malheureusement, nous sommes encore beaucoup trop influencés par des préjugés de tout ordre. Ainsi, ce que nous appelons crise est seulement la partie visible du séisme qui nous déstabilise. Nous oublions que toute crise masque nos potentialités, parce qu'elle éveille nos peurs et les stigmatise tels des démons redoutables à fuir à tout prix. Or, la regarder pour ce qu'elle est réellement, à savoir un appel au changement, peut provoquer la résilience salvatrice prête à dessiller nos regards et à nous porter vers ce à quoi nous aspirons. Ce qui fait frissonner de terreur le grec nous fera frissonner de terreur les uns après les autres si nous n'abandonnons pas nos vraies illusions. illusion forgée par des décennies de cupidité accentuée par ce qu'on appelle communément les Trente Glorieuses. Le passé est révolu, l'avenir n'existe pas encore, le présent, ce bel instant qui passe, voilà ce qui nous habite pleinement et que nous refusons de voir, de perdre, de peur de perdre ce que nous avons déjà perdu, et dans l'attente de ce qui, demain, n'existe pas encore et n'existera peut-être jamais. La vie, la vraie, c'est le vécu maintenant, c'est le vécu ici. La vie, la vraie, c'est le vécu sensuel, charnel, dont l'art détient les clés, en particulier quand il s'inscrit dans une dynamique de belle résilience. À ce propos, j'aime à me rappeler cette pensée de Goethe. Bien des cœurs se perdent dans le général, mais le plus noble se consacre à l'un. L'un avec un U majuscule. Il faut apprendre à regarder un clou, puis à l'utiliser pour y accrocher nos rêves en décrochant nos vieux habits poussiéreux. Alors, nous en sortirons enrichis d'un savoir plus dense et plus vaste que tout ce que pourraient nous apprendre les manuels les plus savants. Voilà pourquoi je vends mon art, mais j'offre mon or. Les mots sont parfois vides, comme les seins d'une vieille femme stérile qui a passé l'âge d'enfanter. Mais ils ont eu leur jeunesse, un temps où les vérités étaient à découvrir et avaient besoin de vecteurs verbaux pour se révéler. Ce rôle de médiateur de l'invisible et de l'ineffable revient à l'art. Je ne parle pas de l'art qui se meurt dans la technique, bien sûr. Pour ma part, dans le fruit du travail qui compose mon art, deux choses sont essentielles. Un, les êtres monochromiques présents dans chacune des boîtes translucides doivent être de vivants contributeurs à l'exploration du vrai monde. Ce monde dissimulé par les productions foisonnantes mais vides de sens de nos univers marchands. Deux, cela doit constituer pour moi un repère qui me guide dans l'attitude que j'adopte à l'égard de ma production. Ces deux choses s'expliquent sans doute par un constat que j'ai fait maintes et maintes fois, à savoir que quand la résilience n'opère pas, c'est la mort. Quand les vices ou la vie ne sont pas stimulantes, c'est l'ennui. Par conséquent, quand l'intervention de mes tripes est trop présente et que la résilience naturelle n'opère pas, je détruis mon art. Je brûle ma chair picturale pour l'éternité. Tels des êtres immortels, seuls des tableaux qui répondent à ma tentative de sublimation, en offrant une vivante résilience, une présence stimulante, peuvent entrer dans l'espace d'un espace, comme dénoué de tout support, et s'y épanouir, intégrant à jamais une partie du cosmos. Le spectateur doit se sentir transporté hors de soi. Dans un monde où le combat et la sensation physique ont disparu, où l'imprégnation d'énergie s'opère en lui et dans l'air qui l'entoure. Il doit sentir le souffle de la matérialité désincarnée, voir disparaître le rideau de fumée de la réalité ambiante, presque toujours menteuse. Spontanément, bien que j'en soupçonne la raison, ce presque toujours menteuse que je viens de prononcer me fait penser au marché. Non pas ceux de la Provence de Pagnol, mais les marchés financiers, là où les crises actuelles prennent forme, là où les chocs collectifs se dessinent aujourd'hui. Nous entendons parler des marchés tout au long des jours qui se succèdent, les marchés qui invalident ou valident les politiques de nos dirigeants, les marchés qui plébiscitent ou sanctionnent les initiatives prises par des investisseurs plus ou moins bien inspirés. Les marchés qui créent des chocs économiques dévastateurs, qui engloutissent des fortunes, puis se reprennent, anticipant les bonnes nouvelles, en les saluant, en créant d'autres nouvelles fortunes. Mais les marchés, c'est qui ? C'est nous tous. Autrement dit, un conglomérat d'individus isolés, chacun dans la bulle des décisions qu'elle a à prendre. Nous tous, sous le contrôle de quelques-uns, de quelques initiés qui cristallisent nos peurs et nos angoisses pour aboutir à ce veau d'or de notre temps, les marchés financiers. Voilà la véritable nature des marchés, un vaste rideau de fumée, tantôt complètement opaque, tantôt léger et translucide. Rien de plus, rien de moins. Mais je m'arrête sur les marchés. Ils ne forment pas la vie. Ils n'en sont qu'un reflet. Un reflet qui stigmatise bien des choses, mais qui en aucun cas ne contient l'élément clé pour vivre vraiment. Vivre vraiment, c'est oublier que l'on vit. J'ai cessé de vouloir donner un sens à ma vie le jour où j'ai découvert que le sens de la vie, c'est la vie elle-même. Les circonstances seules me guident, en m'inspirant des attitudes en synchronie avec la réalité, avec l'esprit et la matière qui sont unis par une trame invisible. C'est ainsi que j'ai vu s'opérer les plus belles résiliences. C'est ainsi que j'ai vu bien des feux intérieurs s'allumer et exacerber les sens. C'est ainsi que j'ai vu bien des vies propulsées vers un ailleurs poétique qui n'en est pas moins le vrai. Et l'art peut se révéler un extraordinaire outil pour allumer la mèche. De toutes les œuvres présentes ici, je pense que chacune d'entre elles peut remplir cette fonction. pour peu que chacun prenne possession de celle qui lui tend la main et qu'il aille jusqu'au bout de l'aventure d'appropriation. Je tiens à préciser pour conclure que le moment de réalité que vous pouvez voir léviter dans mes boîtes translucides constitue un point d'ancrage métaphysique qui permet aux infinis possibles de se présenter à soi. Car souvenez-vous que mes tableaux aussi sont des victimes de la crise, mais ils en sont sortis sublimés, couverts de couleurs entraînantes, de matières alliant l'ordre et le désordre, d'un mariage luxuriant de sensualité émotionnelle. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie de m'avoir prêté votre attention.